RFI, 8h30 à Paris, 7h30 en temps universel.
RFI Matin.
Et un nouveau journal avec vous, Arthur Ponchelet.
Et à la une ce matin, le chef de l'ONU et celui de la diplomatie européenne s'expriment sur le conflit dans l'est de la RDC. Il faut à tout prix éviter une guerre régionale, dit Antonio Guterres. La violation de l'intégrité de la RDC ne restera pas sans réponse pour Bruxelles. Il n'était pas favori et pourtant c'est lui qui l'a emporté au bout du suspense. Mahmoud Ali Youssouf a été élu hier président de la commission de l'Union africaine. Le Djiboutien a battu son rival kényan Raila Odinga, pourtant donné comme favori. Le sommet de l'UA où les dirigeants africains ont aussi décidé de créer une agence de notation panafricaine. Fixer la durée de la transition et les priorités du pays au Niger, les objectifs des assises nationales, elles ont été lancées hier à Niamey par le chef des militaires, le général Tiani. Au sommaire également, reportage à la frontière entre le Bénin et le Niger, aux côtés des commerçants transfrontaliers. Ils doivent toujours composer avec les tensions diplomatiques entre les deux pays. Et puis on est au Gabon à la fin de ce journal, à Libreville, où des navires turcs vont produire de l'électricité et tenter de mettre fin au délestage. Mais vous l'entendrez, cela coûte cher et c'est très polluant. Situation toujours incertaine à Bukavu, la capitale du Sud Kivu, où des hommes du M23 ont été signalés. Information confirmée par une source gouvernementale congolaise, le groupe armé appuyé par l'armée rwandaise demande aux habitants, je cite, de s'organiser. Des habitants de Bukavu disent avoir entendu hier des tirs sporadiques dans les rues. Paulina Zidi, du côté de la communauté internationale, beaucoup de réactions et d'inquiétudes après cette nouvelle offensive.
Condamnation ferme du côté de l'Union européenne. La diplomatie de l'UE s'alarme du non-respect du cessez-le-feu et promet que la violation de l'intégrité de la RDC ne restera pas sans réponse. L'UE, je cite, examine d'urgence tous les moyens à sa disposition. On sait que l'idée de sanctions a plusieurs fois été évoquée du côté de Bruxelles, mais que les États membres sont encore divisés sur la question. Forte inquiétude aussi du côté des Nations Unies, comme lors de la prise de Goma, Antonio Guterres hausse le ton et prévient du risque d'escalade régionale, un discours que le chef des Nations Unies a tenu en marge du sommet de l'Union africaine. Il est d'ailleurs l'une des rares voix à Addis Abeba à avoir évoqué cette nouvelle offensive du M23. Aucune mention de la situation à Bukavu dans les prises de parole, si ce n'est Moussa Faki Mahamat, président de la commission, qui a réclamé vendredi l'application du cessez-le-feu demandé la semaine dernière par les régions est-africaines et australes lors d'un sommet extraordinaire en Tanzanie. Paulina Zidi, Kinshasa, RFI.
Et hier, le président français, Emmanuel Macron a lui déclaré avoir échangé avec son homologue congolais. « Nous appelons, écrit-il, à un cessez-le-feu immédiat. Le M23 doit immédiatement se retirer de Bukavu. » Les deux chefs d'État demandent des garanties de sécurité pour permettre le retour sans délai des autorités à Bukavu et le retrait du M23 de l'aéroport de Kavumu pour une reprise des vols civils et humanitaires sans entrave. Emmanuel Macron appelle le Rwanda, je cite, « à soutenir la mise en œuvre de ces mesures d'urgence ». Le président rwandais, lui, au cœur d'une polémique au sommet de l'Union africaine. La première ministre congolaise a refusé de prendre part à la photo officielle. Hors de question de s'afficher aux côtés de l'agresseur, explique-t-on dans son entourage. Une source diplomatique congolaise évoque-t-elle une discrimination envers la RDC, référence à un incident impliquant plusieurs membres de la délégation du pays à Addis Abeba. Ils ont été bloqués hier dans leur hôtel par les services de sécurité éthiopien. Pas d'explication officielle, mais Addis Abeba accuserait la RDC d'avoir tenté d'organiser une manifestation en marge du sommet, ce que dément Kinshasa, le sommet de l'Union africaine, marqué hier par l'élection du nouveau président de la commission de l'institution. Il n'était pas favori, mais le Djiboutien Mahmoud Ali Youssouf l'a emporté. Le mois prochain, il prendra la tête de l'institution pour 4 ans. Autre décision prise à Addis Abeba, Charlotte Cossé, la création d'une agence de notation panafricaine. Les dirigeants africains dénoncent des biais injustes des agences occidentales.
Voir sa note fortement dégradée et être considéré comme un pays dit poubelle par l'agence Fitch a été la goutte d'eau pour le président éthiopien Taye Atke Selassie.
Malgré les progrès que nous avons réalisés, les agences de notation internationale présentent souvent une vision déformée et peu constructive de nos économies. Leurs évaluations sont imprévisibles et incohérentes. Ce manque d'objectivité dans la notation de nos économies a d'une part gravement entravé notre capacité à accéder aux capitaux et d'autre part cela limite notre capacité à nous intégrer dans le système financier mondial.
Des biais des agences de notation qui auraient fait perdre 75 milliards de dollars d'opportunités d'investissement au continent, selon une étude citée par le président kényan William Ruto.
Une agence de notation africaine, selon moi, n'est pas seulement une alternative, c'est un impératif. Cette agence doit être crédible au niveau mondial, s'appuyer sur des données rigoureuses, répondre à des normes d'évaluation strictes. Mais surtout, elle doit refléter correctement la réalité de l'Afrique. Nous ne ferons pas ce voyage seuls. Nous construirons des alliances fondées sur des valeurs communes de dignité, d'équité et de progrès.
Selon la même étude citée par William Ruto, la revalorisation d'un cran des notes africaines permettrait de débloquer 15 milliards de dollars d'investissement.
Charlotte Cosset du service économie de RFI. Au Mali, nouveau drame de l'orpaillage illégal. Au moins 48 personnes sont mortes hier à Kaï, dans l'ouest du pays, dans l'effondrement d'une mine d'or artisanale. Le site était principalement exploité par des ressortissants chinois sans les autorisations nécessaires. Les détails à lire sur RFI.fr. 7h36 en temps universel, c'est une première 18 mois après l'arrivée au pouvoir des militaires. Le Niger lançait hier ses assises nationales, un rendez-vous inauguré par le chef des militaires, le général Tiani, en présence de gouverneurs, de leaders religieux et de quelques représentants de la société civile. Eva Massi.
Devant une salle comble, le général Abdourahman Tiani a ouvert ses assises nationales sur un court discours, retransmis à la télévision nationale, dans lequel il a rappelé les objectifs de l'événement.
1. Définir les principes fondamentaux devant régir notre transition. 2. Définir la période de la transition. 3. Définir les priorités nationales durant la transition. 4. Rappeler les valeurs fondamentale devant guider la refondation de la République.
Le chef des militaires au pouvoir a ensuite précisé que si l'organisation de ces assises avait pris autant de retard, c'est parce que le Niger fait face, je cite, à l'animosité de certaines puissances occidentales et leurs complices africains. Abdourahman Tiani est ensuite reparti au palais et les cinq commissions se sont réunies pour se mettre au travail. Des délégations officielles du Burkina Faso et du Mali étaient présentes, ainsi que l'ancien président Issoufou Mahamadou, qui s'est ensuite envolé pour le sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Quant à l'ancien premier ministre Ibrahim Hassan Mayaki, dont la présence était annoncée, il était finalement absent, tout comme les représentants des partis politiques suspendus depuis juillet 2023.
Eva Massi, le Niger qui maintient toujours sa frontière avec le Bénin fermée entre Niamey et Cotonou, vous le savez, les relations sont froides depuis le coup d'état du 26 juillet 2023. Le pont qui relie Malanville à Gaïa, les deux villes frontalières, est toujours bloqué par les autorités nigériennes. Alors pour contourner l'obstacle, depuis le mois de novembre, la traversée du fleuve Niger, interdite pendant 6 mois, a été réautorisée. Pour les commerçants de Malanville, côté Bénin, c'est une petite bouffée d'air, même si cela reste insuffisant. Reportage de Magali Lagrange.
Ce matin, nous avons pris le bus, nous sommes arrivés à Gaïa et nous avons pu faire le passage à travers le fleuve. Donc nous avons pu des pirogues qui nous ont déposés à Malanville.
Encore quelques heures de patience pour cet étudiant nigérien. Assis sur un banc du terminal d'une compagnie de bus, il attend de poursuivre son trajet vers Lomé, parti de Niamey. Il a pris un premier bus jusqu'à Gaïa, au Niger, avant de traverser le fleuve pour rejoindre Malanville sur la rive béninoise.
C'est très pénible, disons que j'ai un peu cette phobie, j'ai peur de cette pirogue qui est tout juste au niveau du fleuve, c'est très compliqué. Il y a souvent même des bousculades qui tendent à renverser le pirogue avec tout ça. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut que se contenter de cela pour le moment.
Après 6 mois d'interdiction, la traversée du fleuve est de nouveau autorisée pour les personnes comme pour les marchandises. Le marché international, poumon économique de la zone, est bien achalandé. Devant sa boutique, ce revendeur de tissus reconnaît que l'autorisation de la voie fluviale a un peu amélioré les choses, même si cela reste bien insuffisant à ses yeux, car les Nigériens représentaient une part essentielle de la clientèle.
Même si la voie fluviale est autorisée, certaines personnes ont tellement peur. Ils n'arrivent même plus d'abord à voyager. Même ceux qui viennent en même temps d'abord sur le frontière là-bas, là, on les bouleverse donc. Ils sont pressés de quitter Malanville. Il n'y a pas encore la circulation. La Nigérie, ils rentrent même d'abord dans le marché. pour regarder les attiques.
Dans la ville frontalière, on espère toujours la réouverture de la frontière entre le Bénin et le Niger. Magali Lagrange, de retour de Malanville, RFI.
Comment éviter les délestages d'électricité? La question intéresse les autorités du Gabon, où les habitants de Libreville vivent au rythme des coupures de courant depuis plusieurs mois. Alors pour y remédier, une convention de fourniture d'électricité a été signée hier avec une société turque, Car Powership. L'entreprise a déjà acheminé deux bateaux-usines au large des côtes gabonaises. Ce sont ces navires qui vont produire du courant. Libreville avait d'abord jugé le contrat trop cher. Il a depuis été révisé, mais des doutes persistent sur la fiabilité de ce mode de production. RFI Libreville, Yves-Laurent Gomin.
Trois ministres gabonais ont interrompu leur week-end pour signer la convention. Parmi eux, le ministre de l'Énergie, Séraphin Akouré Davin, qui soutient que l'accord est une solution d'urgence pour soulager les populations.
Pendant près d'une quinzaine d'années, nous n'avons pas entretenu nos équipements. Nous n'avons pas renouvelé notre parc énergétique. L'accord que nous signons aujourd'hui, c'est l'extrême urgence.
Les bateaux-usines de Car Powership vont dans un premier temps produire l'électricité avec le fioul lourd ou le gasoil. Ces deux combustibles coûtent cher et sont très polluants. Ali Aydjahes, directeur des opérations de la société turque, rassure.
Nous sommes prêts à fonctionner avec du gaz et... Mais je peux vous rassurer aujourd'hui qu'on doit se concentrer sur le succès où on est, qu'on doit se féliciter de cette solution qui est enfin prête à donner la réponse attendue par la population. Progressivement, on va commencer à résoudre les problèmes de délestage et en espérant dans le très court terme donner la réponse définitive et améliorer la situation actuelle à Libreville.
Pour le moment, l'on ne parle pas d'une éventuelle augmentation de la facture chez les consommateurs. Le gouvernement soutient qu'il poursuit les investissements pour sortir rapidement de la situation d'urgence actuelle. Yves-Laurent Goma, Libreville, RFI.
Et puis à Maurice, Pravin Jugnot a passé la nuit en prison. L'ancien Premier ministre a été interpellé hier pour des soupçons de blanchiment d'argent. Tous les détails de cette affaire à retrouver sur notre site rfi.fr. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. RFI Matin, suite et fin, c'est avec vous Julien Coquelrohem.
Merci Arthur Ponchelet, bon dimanche.